Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
Les pionniers cette semaine avec au sommaire le tête-à-tête avec l'ingénieur, l'inventeur, le français le plus connu de la Silicon Valley. Il a passé 30 ans aux US à mettre la technologie au service des vrais gens, comme il dit. Il a créé 4 startups qui ont toutes fonctionné. Il touche plus d'un milliard de personnes aujourd'hui grâce à ses produits, notamment parce qu'il est l'inventeur de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Aujourd'hui, il est de retour en France à la direction scientifique de Renault. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Luc Julia.
Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Élise Postil, la cofondatrice d'Hilo Cosmétiques, et Géraldine O'Neill, la fondatrice de Natural 5. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions comme de coutume. C'est les questions évidemment que vous nous avez envoyées via le site de bfmbusiness.fr.
Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Luc Julia.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Luc Julia. Bonjour Luc.
Salut Fred.
Alors, tu es ingénieur et même inventeur. Tu crées des choses utiles pour les gens, pour améliorer leur quotidien. Tes inventions ne sont pas restées dans des labos, puisque tu as créé 4 startups à succès, ce qui est donc assez rare, et dans la Silicon Valley. Avant d'être appelé par Steve Jobs en personne pour développer Siri, tu es résilient, persévérant, très exigeant. Et aujourd'hui, depuis 2018, tu renforces les ponts de collaboration entre la France et les États-Unis au niveau de la technologie. Donc merci pour ça déjà. Alors, tu connais le principe de l'émission, on va s'intéresser à ton parcours, mais on va aussi s'intéresser à tout ce que tu penses, toutes tes émotions, tous tes ressentis, quand tu fais des choses justement que les autres n'ont jamais faites. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des moments charnières justement dans ton parcours. Et on va commencer donc par le début. Alors, tu es né en 1966, et même si tu as longtemps vécu aux États-Unis, tu es Toulousain. À 5 ans, tu as un rêve peu commun pour un enfant si jeune. Tu rêves d'entrer au CNRS. Pourquoi donc ?
Je pense que c'est mes parents qui m'ont mis ça, qui étaient enseignants, qui m'ont mis ça dans la tête. Ils m'ont mis le mot CNRS, CNRS chercheur, chercheur trouveur. Et donc, je sais pas, j'avais envie de faire ça, ça avait l'air cool. Mais je savais pas ce que ça voulait dire.
Non. Et alors donc, après, tu t'es quand même rapidement passionné pour l'informatique électronique, spécifiquement. Tu te souviens de la première chose que tu as bricolée ?
La toute première, c'était en fait une alarme dans ma chambre pour pas que ma sœur rentre. La seconde, c'était un robot pour faire
ça marchait ?
Ça marchait, ouais.
C'est-à-dire, ça faisait quoi ? Ça faisait une sirène ?
Oui, c'était une sirène, oui. C'était une petite lamelle de laiton qui faisait une alarme, quoi. Et le deuxième, donc, un robot pour faire mon lit.
Et ça marchait aussi ?
Ah non.
Ça, c'est... Oui, parce que j'allais dire, celle-là, si ça a marché, ça nous serait très utile.
Ça pas bien. C'est-à-dire, ça marchouillait à l'époque. Tu sais, quand on faisait son lit, c'est pas mettre une couette sur le lit. Hein.
Il fallait
border avec les draps, les machins. Et donc, ça bordouillait et ça déchirait pas mal de draps.
Mais qu'il y avait un bras, un robot.
Ouais, il y avait un bras. Donc, c'était un moteur d'aspirateur. J'avais donc transformé le mouvement circulaire en mouvement perpendiculaire. Enfin, je sais pas comment on dit, linéaire. Et donc, ça allait le long du lit et avec le bras qui faisait ça. Et donc, il fallait mettre les draps comme il fallait, la couverture, et puis ça faisait ça. Et puis, mais ça en a déchiré pas mal. Ma mère était pas très contente, mais moi, j'étais très fier.
Bon, alors, on voit la photo de classe. Tu nous montres où tu es.
C'est le gars qui est affalé là, en troisième en bas. Là.
D'accord.
Oui.
Ok, tu nous regardes avec une vision d'avenir. Et tu entames des études en informatique et tu obtiens une maîtrise, puis un DEA en informatique à l'université Pierre-Écurie, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Tu poursuis en doctorat à l'ENST, qui est Télécom Paris. Et au début des années 90, justement, tu entres au CNRS. Donc on se dit l'aboutissement. C'était comme dans ton rêve de gosse ou pas ?
Absolument pas. Très grosse déception. Enfin, au début, si, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que c'est un labo, on fait des trucs, on a un peu de matériel, on a des gens sympas avec qui on peut discuter et tout. Et puis après, dans mon cas, hein, et c'était il y a 30 ans, donc il y a prescription, on me dit qu'il ne faut pas que je collabore avec les autres gens du CNRS, les autres personnes du CNRS, d'autres labos. Et donc ça, c'était une grosse déception, parce que pour moi, la recherche et en général, faire des projets, c'est avec des gens. Partager et l'émulation vient du partage. Et donc, on m'a un peu coupé les ailes. Et donc, déception, j'ai pu partir.
Et donc, tu t'envoles aux États-Unis en janvier 1994. Tu entres au SRI, le Stanford Research Institute, en Californie, en tant que chargé de recherche au Centre d'intelligence artificielle. Ça s'est fait vite, hein, quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous, les Ricains, là ?
Ils avaient cet esprit de partage, et surtout dans la Silicon Valley, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dès le départ, c'est une sorte d'héritage de la ruée vers l'or. C'est-à-dire que on a des gens très différents qui vont venir s'entraider pour faire des trucs. C'était un peu un étonnement. Et j'ai vu assez rapidement des gens très très différents se mettre ensemble pour faire des projets, start-up ou autre. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré.
En novembre 98, tu fondes ton propre labo, le CHIC, hein, donc on voit quand même l'inspiration française, le Computer Human Interaction Center. Vous travaillez sur quoi ?
Un peu tous les trucs qui étaient connectés, parce que c'est le début d'Internet, hein, on parle Internet, c'est 94-95, on se rend compte rapidement que ça va être la plus grosse base de données du monde, donc déjà on va pouvoir faire un peu ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, donc tripoter un peu les données, et puis aussi connecter des objets, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IoT, Internet of Things, les objets connectés. Et donc ce que fait CHIC à l'époque, c'est le premier frigo connecté, la première voiture connectée, beaucoup de premières d'Internet, mais bon, c'était pas difficile de faire le premier puisque
il n'y avait pas
avant.
Et il y a une date qui compte beaucoup pour toi, c'est le 9-9-99 at 9 a.m., c'est-à-dire le 9 septembre 1999 à 9h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On a présenté les 9 projets sur lesquels on avait travaillé depuis les mois précédents où on avait créé CHIC. Et donc, on a présenté 9 projets de débiles, hein, des trucs un peu bizarres, hein, qu'on n'avait jamais vus avant. Et c'était effectivement très important pour nous. On était une petite équipe de chercheurs, chercheurs appliqués, hein, c'est-à-dire que c'était pas les savants fous. Et donc, on présente nos choses à la presse. Et c'était très, très gratifiant pour nous.
9, c'est un chiffre porte-bonheur pour toi ?
Moi, pas spécialement. Celui-là a été rigolo parce que ça n'allait pas arriver souvent après de retrouver autant de mêmes chiffres. Il va falloir attendre un peu et je ne pense pas que je vais le voir le prochain.
Donc, et tu passes d'entrepreneur de génie à créateur de start-up. Et donc, tu te lances dans l'aventure de la création de start-up avec un palmarès assez exceptionnel, Stéphanie.
Effectivement, en 2000, vous créez l'incubateur Bravo Brava, doté d'un budget $1,5 million. Il incube 4 de vos start-up qui révéleront être 4 succès. D'abord, Soliloquy Learning, pionnier de l'assistant de lecture utilisé dans plus d'un millier d'écoles aux États-Unis. La start-up est rachetée en 2007 par Scientific Learning. Vient ensuite Speak ESL, qui utilise la reconnaissance vocale pour aider à l'apprentissage de l'anglais. Puis en 2004, Orbs Networks, spécialisé dans le streaming, bien avant que ce type de technologie ne se démocratise. L'entreprise est rachetée en 2010 par Qualcomm. Et enfin, en 97, avec Adam Scheyer, vous développez un programme intitulé The Assistant. Vous en déposez les brevets. Ce projet aboutira à la création de Siri en 2007. On y reviendra plus tard dans l'émission avec Fred.
100% de réussite, c'est sur tes startups, c'est absolument pas classique.
Non, dans la vallée, le taux de réussite est à peu près entre 5 et 10%. D'accord, donc effectivement, on a eu beaucoup de chance, c'est sûr.
Il n'y a pas que de la chance quand même, hein. Je pense qu'il y a du travail, du talent et un peu de chance.
Oui, il y a quand même un peu de chance, mais c'était aussi le bon moment. Il faut se remettre aussi dans ces années 2000, où on est après la bulle Internet, donc une nouvelle respiration. Les VC, les venture capitalistes qui investissent font un peu plus attention aussi. Donc le taux de réussite peut-être à ce moment-là était un tout petit peu plus haut. Donc bon, mais oui, mais en 100%, ça n'existe pas.
Et qu'est-ce que tu considères être ta plus belle invention ?
Ma plus jolie, technologiquement parlant, c'est Orb, Orb Networks, celui qu'on vient de voir là. C'était vraiment une performance technologique assez incroyable, pouvoir jouer sur un téléphone en edge. Hein, c'est pas, on ne parle pas de 3G, de 4G, là, hein, on parle de petite connectivité sur un téléphone.
Tu nous rappelles exactement comment ça marche, Orb?
Alors, Orb, ça permettait de jouer n'importe quel média, mais n'importe quel médium, sur n'importe quel téléphone. Voilà, bah, là, c'était sur un Nokia 3650, certainement, donc un vieux téléphone Nokia. On pouvait jouer, bah, là en l'occurrence, de la live TV. Donc c'était normalement pas
la
possible.
La télé sur téléphone, ouais,
télé sur téléphone.
Absolument impossible.
Impossible. Et donc là, il faut calculer quelle est la bande passante. Il faut faire plein de choses pour pouvoir calculer le serveur, comment il va envoyer les trams. Enfin, bon, c'était très, très, très compliqué. Et je pense d'ailleurs qu'on a eu tous les geeks de la Terre parce qu'on a eu 13 millions d'utilisateurs sur cette application. Et 13 millions d'utilisateurs pour
c'était
une petite start-up.
Geeks,
c'était les 13 millions de geeks qui existent dans le monde.
D'accord. Et comment tu fais pour gérer tout ça en même temps? Tu dors combien d'heures par nuit?
Ouais, c'est un peu la chance que j'ai aussi. C'est que je dors pas beaucoup. Je dors à peu près 3 heures par nuit. Donc, j'ai à peu près 2 journées par jour.
Donc, 2 cycles d'une heure 30.
Ah, pour la nuit, oui. 2 cycles d'une heure 30. Alors que les gens normaux, entre guillemets, c'est à peu près 2 cycles de 3 heures.
Donc, tu as 2 journées en une et tu arrives à tout faire. Alors, en 2003, tu décroches un rendez-vous avec Steve Jobs pour lui présenter tes inventions. Alors, pour rappel, dans le contexte Apple, à l'époque, l'iPod existe, mais l'iPhone n'existe pas encore. Ça s'est passé comment, cette première rencontre avec Steve Jobs?
Très mal. On était très très excités, hein, parce qu'on a effectivement le rendez-vous avec le gars de la vallée, hein, Steve Jobs, qui était connu pour ses humeurs, mais bon, on était quand même très très excités. Et on se prépare, on a une heure de préparation avant. Il arrive avec ses 2 acolytes, il rentre dans la pièce, on commence la démo. Au bout d'un quart d'heure, il se lève, il dit c'est de la merde et il se casse. Alors évidemment, on était un peu choqués, on était un peu déçus, c'est moins qu'on puisse dire. Ses acolytes restent, ils essayent de nous calmer, enfin de nous dire que c'est normal, c'est Steve. Bon, ben d'accord. Mais...
C'est ça, c'est Steve, t'es exigeant. C'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, là, c'est un, je dirais,
provocateur. Il était jaloux, tu penses? Il a vu tes inventions, il s'est dit... Lui, bon, il va faire de l'ombre.
C'est facile de dire ça aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait un tout petit peu... Allez, oui, il était jaloux.
Ah ben voilà, c'est dit. Donc tu continues ta route avec tes startups jusqu'en 2011, où tu entres pour la première fois dans un grand groupe. Tu deviens directeur de la technologie pour HP, Hewlett-Packard, et le 4 octobre 2011, tu reçois l'appel d'un vieil ami, Steve Jobs. Alors pourquoi il te rappelle ?
Il a découvert la start-up qui, entre-temps, est devenue une start-up qui s'appelait Siri, donc le premier projet qui était notre projet d'assistant à SRI en 1997. Donc, entre-temps, c'est devenu une start-up qui marchait sur Android.
On voit ton patent.
Ça, c'est le brevet, oui, délivré en 2003. Et donc, il dit, écoutez, je pense que le truc que vous faites sur Android, là, vous avez 180 000 utilisateurs, de toute façon, c'est pas bien, ça suffit pas. Moi, je veux mettre ce que vous avez fait sur l'iPhone. Et venez.
Enfin, il se souvenait qu'il t'avait déjà rencontré et qu'il avait déjà dit que ce que tu faisais, c'était pas bien.
Mais bon, ça, c'est la vallée, encore une fois.
D'accord.
On oublie tout. Quand c'est du business, c'est du business.
D'accord. Et donc, tu travailles à ce moment-là au développement de Siri, donc, qui est passé de SRI à Siri, pendant un an. C'est quoi les ingrédients d'un assistant vocal? Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Alors, il faut comprendre que tout se passe sur des serveurs, d'accord? Donc Siri, ça se fait dans les serveurs, donc il faut construire.
Ici, on voit la présentation.
Voilà, c'est mon ami Scott Forstall. Il faut construire de scratch des serveurs, beaucoup, beaucoup de serveurs, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et donc, il n'y avait pas ça chez Apple. Il faut donc construire des data centers. Avoir la possibilité d'intégrer ça dans iOS, donc qui était l'OS de l'iPhone. Donc, une petite performance avec une équipe qui est une équipe de 15 personnes au départ, 85 au bout de 6 mois. Belle performance du front-end au back-end, donc du début à la fin, on a tout fait. Et tout ça en mode secret, parce qu'on est quand même chez Apple, c'est-à-dire que personne ne sait qu'on est là, qu'on existe. Chez Apple, on a double SaaS pour entrer dans nos bureaux. Personne, enfin, on est caché. Et on fait le truc en un an.
En 2012, tu quittes Apple pour partir chez son concurrent, Samsung. Et ça marque une transition forte pour toi, Stéphanie.
Effectivement, puisqu'en 2012, vous êtes nommé directeur de l'innovation chez Samsung. Votre rôle, c'est de diriger 350 chercheurs en charge des projets d'avant-garde. 5 ans plus tard, alors qu'Emmanuel Macron est élu président, vous dites vouloir faire quelque chose pour la France. Vous proposez alors à Samsung de créer un laboratoire dédié à l'IA, mais à Paris. Et face au refus de la direction, vous démissionnez, ça va pas durer longtemps, hein. Au bout de 2 mois, vous réintégrez Samsung pour aller au bout du projet. Et le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung est inauguré fin 2018 dans le 2e arrondissement de Paris.
Tout à fait.
Alors, elle est comment la France que tu retrouves au niveau technologique ?
Ben, elle est comme celle que j'adore, c'est-à-dire une France qui a changé quand même, hein, en 20 ans à l'époque. Elle a pas mal changé. Elle est devenue plus une France d'entrepreneurs. Elle est toujours une France d'ingénieurs, une France de matheux, de gens qui font de l'IA, hein, qui font bien de l'IA. Et donc, elle est cette France dans laquelle on peut développer ses projets et utiliser ses talents. Et donc, j'étais effectivement très très fier de pouvoir dire que mon pays pouvait héberger ce genre de centre.
D'ailleurs, tu as travaillé avec beaucoup de Français quand tu étais en Silicon Valley, hein ?
Ouais, j'étais un peu la cause de pas mal de fuites de cerveau là-bas.
Ils sont rentrés ou pas ? Ils restent là-bas ? Tous les Français avec qui tu as travaillé ?
Ça dépend. Maintenant, de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils reviennent de plus en plus tôt ici. À l'époque, tout à fait au début, quand on était un peu déçus comme moi, on restait un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que depuis la French Tech, on va dire, donc depuis 2012-2013, il y a beaucoup plus de potentiel ici, de potentiel d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, ben, on va se former un peu, on va voir un peu ce qui se passe à Stanford, à Berkeley, et puis on revient ici.
Et depuis mai 2021, tu es directeur scientifique de Renault. Pourquoi tu as accepté de monter à bord de Renault ?
C'est encore une fois pour faire profiter en quelque sorte de mon expérience dans la vallée, donc d'avoir un peu cette différence de rapidité dans le développement des projets. De montrer comment on fait les choses en ayant plus de collaboration peut-être, et puis surtout c'est une vieille dame Renault, hein, c'est une industrie un peu lourde, donc essayer de
ça se modernise beaucoup quand même, hein.
Il y a beaucoup ça de... se modernise, il y a de plus en plus de choses, et donc c'est pour ça Luca De Meo, le nouveau CEO, veut impulser justement une boîte tech. Donc moi, quand j'entends boîte tech, je dis tech, je veux bien essayer.
C'est pour moi, voilà. D'accord. Et tu veux rendre la mobilité plus tech, justement ? Ça se passe comment ? La voiture autonome, c'est pour demain ou pas tout de suite ?
Alors, la voiture autonome n'existera jamais, hein, telle qu'on l'a définie
aujourd'hui. Autonome niveau 5, c'est-à-dire totalement autonome,
c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça sert à rien de toute façon, hein, ça coûterait beaucoup trop cher.
Quoi ? Parce qu'il faut trop de créativité pour réussir à conduire et s'adapter à toutes les situations ?
Exactement. Nous, quand on n'a pas vu une situation, on va faire quelque chose avec cette situation. Quand un robot n'a pas vu une situation, il est embêté. Parce que ce qu'on appelle le machine learning.
Il fait que reproduire le robot.
Oui, exactement. Il fait que recracher ce qu'on lui a appris, hein, c'est ce qui s'appelle le machine learning, hein, c'est du learning, c'est que de l'apprentissage. Et donc, s'il n'a pas appris, il ne sait pas. Nous, si on n'a pas appris, on a un truc qui s'appelle l'inné. Il se passe des trucs, on ne sait pas exactement comment les expliquer, mais on arrive à faire des trucs alors qu'on ne savait pas.
En 2020, tu reçois la Légion d'honneur et tu dis nous, humains, sommes indispensables. Et les Français, encore plus. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Français, les ingénieurs français, par rapport aux Américains ?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est mathématique. C'est ce siècle des Lumières. C'est quand même extraordinaire. Notre éducation mathématique est fabuleuse. Quand on regarde les médailles Fields, qui sont
l'équivalent... D'ailleurs, la dernière avec...
Exactement. Hugo, donc, on a le plus de médailles Fields dans le monde. On est les meilleurs en maths, c'est comme ça. Et il se trouve que l'intelligence artificielle, qui est donc un de mes sujets, c'est des maths. Et donc, on est les meilleurs. Et c'est comme ça. Mais par contre, on n'oublie pas que l'humain est indispensable parce que ces intelligences artificielles, elles ne sont strictement rien sans nous. Ce ne sont que des outils.
En revanche, à ton retour en France, tu as publié un livre, quand même, au titre provocateur, qui dit « L'intelligence artificielle n'existe pas » aux éditions First. Alors, L'intelligence artificielle n'existe pas, mais il y a quand même ChatGPT d'OpenAI qui est un buzz assez sympa et marrant en ce moment. Et donc nous, on l'a testé. On lui a demandé ce qu'il pensait de l'émission Les Pionniers. Et voici sa réponse. C'est quand même assez marrant. Il invente des trucs. Enfin, il invente. Non, il a raison. Alors regardons. On a demandé à ChatGPT ce qu'il pensait des Pionniers. Les Pionniers est une émission de télévision française diffusée sur BFM Business qui met en avant des entrepreneurs innovants et leur projet. Elle est très appréciée des entrepreneurs car elle leur permet de se faire connaître et de présenter leur entreprise. Donc ça, c'est particulièrement la séquence pitch qu'on va avoir juste après. Et leurs idées à un large public. De plus, l'émission offre également l'opportunité aux entrepreneurs de partager leur expérience et leurs conseils avec d'autres personnes intéressées par l'entrepreneuriat. Enfin, Les Pionniers est une source d'inspiration pour les entrepreneurs qui peuvent s'en inspirer pour développer leurs propres projets ou trouver de nouvelles idées. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle est quand même très intelligente. Alors, comment t'expliques que ChatGPT soit capable de faire tout ça?
Bon, c'est relativement facile. On disait tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle ne fait que recracher ce qui a été déjà appris quelque part. Je pense que si on fait une synthèse de plein d'articles qui sont parus sur ton émission, on pourra arriver à faire ça et avoir du copier-coller de ces différentes synthèses.
Alors, du coup, l'intelligence artificielle n'existe pas.
Oui, c'est l'intelligence artificielle de Hollywood qui n'existe pas, justement, celle qui est fantasmée, celle qui nous fait croire des choses, soit bonnes, soit mauvaises. Et c'est pour ça que j'ai eu ce titre un peu provocateur, parce qu'effectivement, moi, je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans, donc ça serait bête, parce que ça voudrait dire que je ne fais pas grand-chose. Mais par contre, il y a plein d'intelligence artificielle. Et justement, il ne faut surtout pas faire croire ce que ce n'est pas, parce que si on fait croire que ce n'est pas, on risque de décevoir tellement de gens que ça risque d'arrêter, on risque d'arrêter d'essayer d'en faire. Il ne faut pas arrêter, parce que dans chacun de ces domaines d'application, les intelligences artificielles sont excessivement utiles, impressionnantes. Ce sont des outils très, très puissants qu'il ne faut surtout pas arrêter de développer.
Alors pour tout savoir de ton aventure, c'est possible et facile. Tu viens de publier un autre livre aux éditions Kenz, Un Français dans la Silicon Valley. Merci pour tout ce partage-là. Et alors toi qui inventes pour améliorer le quotidien des gens, dans quelle mesure tu penses que la technologie peut justement aider à résoudre les problèmes, notamment du climat aujourd'hui?
Ouais. C'est un très gros problème parce que la technologie affecte énormément le climat, en fait. On s'en rend pas compte parce qu'on est excité, nous ingénieurs, on va être excité faire ces technologies, développer ces technologies sans comprendre l'impact que ça a. Donc, d'un côté, ça a un impact qu'il faut comprendre. Donc déjà, il faut s'éduquer là-dessus. Mais de l'autre côté, on peut utiliser les technologies, l'intelligence artificielle en particulier, pour essayer d'optimiser notre impact, justement, pour faire en sorte qu'on n'en ait pas autant que ça. Et c'est sur ce qu'il faut travailler aujourd'hui. On n'y travaille pas assez. Je pense que la technologie va réussir. On va réussir à la fin. On va réussir à fixer les problèmes. Mais il faut quand même s'en rendre compte et se rendre compte de l'impact négatif aussi de ces technologies.
Pour conclure, on a une question inattendue de la part d'une entrepreneur, Aude Guénot, que tu accompagnes, qui a créé Plume, qui est un outil d'accompagnement à l'apprentissage de l'écriture pour les jeunes et qui est justement basé sur de l'intelligence artificielle. On écoute tout de suite la question de Aude pour toi.
Salut Luc, c'est Aude de Plume, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une question, toi qui diriges la mission sur la souveraineté numérique de la France. Penses-tu qu'il est encore possible de gagner cette bataille et comment faire pour cela? À bientôt.
Bon, on n'a pas 3 heures. La réponse courte, c'est oui. On peut la gagner, cette bataille, parce que comme je disais tout à l'heure, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Donc, on peut gagner la bataille de la technologie. Il faut qu'on gagne la bataille du business. Donc ça, c'est un autre problème. Il y a des problèmes de marché. Le marché européen est très, très différent du marché américain ou du marché chinois. Ils sont beaucoup plus petits et beaucoup plus fragmentés. Donc, je pense qu'on a plus de problèmes là à résoudre et il faudrait que Bruxelles nous aide au lieu de regarder la taille des tomates, de regarder un peu, d'uniformiser les policies qu'il y a dans les différents pays. Mais bon, je pense qu'effectivement, on a une chance. On est très, très bon. Il suffit de...
Merci Luc pour ce partage, pour ces émotions, ces enseignements. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
Les Pionniers, on reprend avec le pitch. Avec sur le plateau Stéphanie Collot et Agathe Vautier, cofondatrice et CEO du Galion Project, qui est le think tank des entrepreneurs. Chaque semaine, on reçoit des pitchers, des gens qui créent des sociétés, des business, et qui viennent nous le présenter pour obtenir une interaction, des conseils avec nous. Vous pouvez vous aussi candidater. Pour cela, rien de plus simple. Ça se passe sur le site de l'émission Les Pionniers, sur BFM Business, ou bien vous scannez tout simplement le QR code qui s'affiche à votre écran.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
Et on commence tout de suite cette séquence du pitch. On reçoit Élise Postil. Bonjour Élise, soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Ilo, marque de cosmétiques naturels et personnalisables. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Vous avez 1 minute 30, top chrono.
Alors chaque jour en France, il y a 4 tonnes de produits cosmétiques qui sont jetés par les consommateurs. C'est juste énorme. Et la raison principale de cet abandon, c'est que le produit n'est pas adapté à leur peau. Et ça peut paraître évident quand on sait que l'industrie cosmétique propose des soins adaptés finalement à peu de standards, généralement peau sèche, mixte ou grasse. Et du coup, il y a un cycle qui est bien souvent répété en cosmétique. On achète un produit, on le teste, on est frustré parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on attendait et il finit à la poubelle. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé Ilo avec mon associé Margot, qui est une marque de cosmétiques naturels et personnalisables qui s'adapte à votre peau et ce, tout au long de votre vie. Concrètement, un soin Ilo, c'est une base de soins neutre et naturel à venir personnaliser en fonction des besoins de sa peau avec des actifs, anti-âge, anti-imperfection, illuminants par exemple. Et notre innovation, c'est que nos actifs sont pré-dosés et encapsulés dans ces petites capsules végétales pour ne pas créer de déchets. Donc, vous choisissez vos actifs, vous craquez les capsules associées, vous ajoutez le contenu à la base de soins, vous mélangez et vous avez un soin sur mesure, prêt à l'emploi en 2 minutes seulement, sans créer de déchets. Alors nos valeurs, ce sont le naturel, nos soins sont jusqu'à 100% naturels, l'anti-gaspillage, nos capsules sont pré-dosées et végétales, nos peaux sont rechargeables pour économiser plus de 96% de plastique, et l'inclusivité, on considère que vous êtes unique et que vos produits cosmétiques doivent l'être aussi. Après une campagne de pré-vente réussie, les soins Ilo seront bientôt disponibles sur notre site e-commerce au début de l'année 2023. Alors si vous aussi, vous avez envie d'un soin qui vous ressemble, n'attendez plus et rejoignez-nous sur l'Ilo d'Ilo.
Merci beaucoup Élise Postil pour Ilo. Fred, on commence avec tes questions.
Alors 4 tonnes jetées par jour, je suis assez scotché, ça représente beaucoup. Faudrait calculer combien ça fait par personne, par jour ou par semaine ou par mois, enfin, ça fait quand même énorme. Est-ce que c'est plus ou moins que le gaspillage qui est lié à ce qui reste dans le fond des tubes et que les gens n'arrivent pas à sortir, sauf en prenant leur cutter pour découper le... je vois que ça sent le vécu. Est-ce que c'est plus ou moins que ce gaspillage-là?
Le gaspillage 4 tonnes, c'est vraiment 4 tonnes de crème jetée. Il y a en effet une partie qui sont les résidus de fond de tube, etc.
Ah, c'est 4 tonnes en tout.
La raison principale de l'abandon, ça reste que le produit n'est pas adapté à la
D'accord.
peau.
D'accord, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à avoir le fond.
Non. Il y a une femme sur deux qui déclare jeter un produit avant de l'avoir terminé. Et ce, parce qu'il ne correspond pas aux besoins de sa peau.
D'accord. Est-ce que vous êtes les premiers à faire des produits personnalisables, autant en tout cas ou...
On n'est pas les premiers à faire des produits personnalisables.
Parlez-nous des concurrents.
Il y a deux types d'acteurs aujourd'hui qui proposent de personnaliser des cosmétiques. Il y a les détaillants d'ingrédients cosmétiques qui, eux, proposent de réaliser soi-même ses cosmétiques ou de personnaliser des bases de soins à l'instar de ce qu'on fait chez Ilo. La différence, c'est que les actifs sont conditionnés dans des bouteilles en plastique grand format. On utilise quelques gouttes de chaque actif, on les stocke dans les placards et finalement, ils finissent à la poubelle parce que soit on n'en a plus l'utilité, soit ils ont périmé. Et le deuxième acteur qui propose des produits à personnaliser ou personnaliser, c'est les laboratoires qui, eux, proposent des produits finis. Donc, on répond à un diagnostic de peau en ligne. On reçoit un produit personnalisé directement chez nous qui est tout prêt. Mais ces acteurs sont positionnés sur un créneau plutôt haut de gamme. On est à environ 80 euros le soin de jour pour du 50 ml, alors que chez Ilo, on est autour de 29,90 un pot plus 3 actifs.
Vous n'avez pas peur, en mélangeant tous ces produits, de faire le géotrouve-tout et de créer des réactions chimiques en chaîne? Enfin, je ne sais pas, parce que enfin, je croyais que justement la composition des produits était assez arrêtée pour éviter les problèmes de mélange.
Évidemment.
On n'a même parfois pas le droit de mettre un certain produit dans le tube d'un autre parce qu'on a peur de créer des réactions chimiques. Comment vous faites pour calculer toutes les combinaisons?
Alors, toutes les combinaisons sont testées avec notre laboratoire partenaire. Donc, toutes les combinaisons d'actifs possibles sont testées dans les bases à quantité maximisée. Donc, aucun risque là-dessus. Tout est testé sur une base de soins. Donc, la crème de jour, par exemple, on a 51 combinaisons possibles entre nos actifs et nos bases. Et elles sont toutes testées en laboratoire.
Agathe, est-ce que tu as des remarques à faire sur le pitch d'Élise ?
Oui, alors déjà, félicitations pour ton pitch. C'était très clair. Je pense que tu nous attires l'attention tout de suite sur le nombre de déchets qui est produit à cause des crèmes non utilisées. Après, moi, tu m'as un peu perdue parce qu'en fait, on a le sentiment que tu veux résoudre beaucoup de choses avec une crème. Et donc, moi, mon conseil, c'est de réussir à se concentrer sur vraiment ce qui fait le caractère unique d'Ilo. Et en fait, moi, je l'ai vraiment compris en écoutant les questions de Fred. Donc, désolée, je suis peut-être un petit peu plus lente. Mais en tout cas, moi, mon conseil, c'est quand tu arrives dans une émission comme ça sur des crèmes où il y a une cible qui est très diverse, c'est vraiment de réussir à mettre en avant ton innovation. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, attention, mon conseil, quand on demande la concurrence et que tu passes sur une émission comme ça, de pas passer trop de temps, justement. C'est un peu une question piège, de revenir toujours à ton produit, d'en profiter pour magnifier un peu ce que tu proposes.
Merci.
Est-ce que tu as besoin de répondre, Élise, peut-être aux remarques d'Agathe ?
Non, merci. C'est
si je dois retenir quelque chose, la valeur principale de ta crème et de ton innovation ?
Notre innovation, c'est vraiment cette petite capsule d'actifs pré-dosés qui permet vraiment donc de réaliser un soin personnalisé rapidement, facilement et surtout sans créer de déchets puisqu'elles sont biodégradables. Donc c'est vraiment ce sur quoi on met l'accent, nous, c'est l'anti-gaspillage de la capsule au pot rechargeable.
Très clair, parfait.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup, Élise Postil, donc cofondatrice et directrice générale d'Ilo. Bon, Agathe, c'est grâce aux questions de Fred que tu as réussi à.
Oui, en fait, il y a eu.
Vraiment accroché, en fait.
Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. Et après, je trouve que l'innovation est géniale. C'est-à-dire d'avoir la même crêpe qui te suit en fonction des saisons. Tu peux l'adapter, la changer en fonction de tes besoins. Je trouve que c'est super. Mais c'est vrai qu'au début, je trouve que le pitch était très fourni et j'ai eu un peu du mal à voir la différence.
Fred ?
Moi, je crois que je ne suis pas dans la cible.
Pourquoi pas ?
Si, attends.
Les hommes portent des crèmes aussi, de jour.
Il se trouve qu'aujourd'hui, tu vois, non, je...
Pas encore.
Tu mets pas de crème.
Pas encore.
Voilà, pas encore, ouais.
Voilà, peut-être...
Donc non, c'est vrai que c'est le genre de produit dans lequel j'ai beaucoup de mal à me projeter. Alors bon, tout ce qui est gaspillage et essayer de le diminuer, eh bien ça me parle beaucoup. Le côté, je mélange les produits... Bon,
t'es chimiste pour faire ta crème.
Ouais, je suis peut-être pas tout à fait prêt. Voilà. Mais autrement, non. Oui, je pense qu'il y a. Dans tous les cas, on va dans la personnalisation, donc on va dans le bon sens aussi.
Ouais. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième pitcher du jour, une pitcheuse, Géraldine O'Neill, fondatrice et présidente de Natural 5, marque de compléments alimentaires qui veut nous aider à manger 5 fruits et légumes par jour. Le défi n'est pas mince. Bonjour Géraldine, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
Alors, 80% des Français sont convaincus que manger 5 fruits et légumes différents par jour est important pour leur santé. En revanche, 70% des Français n'en mangent pas suffisamment. Alors pourquoi ? Bien souvent, c'est par manque de temps ou parce que c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai créé Natural 5. Natural 5, ce sont des fruits, des légumes, des légumineuses déshydratées en poudre qui vont vous permettre très facilement de reconstituer des smoothies santé et sportifs. Mais Natural 5 va plus loin, puisque nos super aliments sont français ou européens essentiellement. Nous n'allons pas chercher des super aliments à l'autre bout de la planète. Nos recettes sont 100% naturelles, transparentes et naturellement riches en vitamines, minéraux et fibres. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé Natural 5 ? C'est d'abord pour moi, en raison de mes problèmes de santé. J'ai été opérée 2 fois à l'âge de 25 ans, mais c'est simplement 20 ans plus tard qu'en végétalisant mon alimentation de façon significative que j'ai vu les bienfaits rapides et puissants sur ma santé physique et sur mon bien-être mental. Alors mon objectif avec Natural 5, c'est de permettre aux 70% de Français qui ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes et bien d'atteindre aussi leurs objectifs et d'être à 100% de leur potentiel. Aujourd'hui, Natural 5 est distribué sur notre site internet natural5.co. Je suis en négociation avec une chaîne de magasins bio pour également faire un test.
Merci beaucoup, Géraldine. Fred, on va commencer par tes questions pour Géraldine.
Est-ce que ça nourrit bien? C'est-à-dire que ça remplace... Enfin, je ne sais pas, si on mange que ça, on a suffisamment mangé?
Non, alors je ne suis pas du tout sur un remplacement de repas. C'est un complément, ce sont des fruits et des légumes. Donc dans un sachet de 200 grammes, vous avez l'équivalent de 2 kilos de fruits et de légumes. C'est très léger, ça se transporte partout. Notre objectif, c'est de compléter notre alimentation et pas de remplacer un repas. Donc je m'adresse par exemple en B2B aux entreprises pour pouvoir proposer nos poudres à mélanger à de l'eau, à l'instar du café et du thé. Parce que par exemple, quand on est devant son ordinateur parfois, on a tendance à manger par manque de temps devant son ordi un sandwich. Là, vous avez un complément d'alimentation qui va vous permettre bien d'avoir un complément en fruits, en légumes. Et comme je le disais, on est naturellement riche en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on prend en plus.
Et alors, sur le process de fabrication, c'est séché, est-ce que ça prend beaucoup d'énergie ou est-ce que c'est plutôt assez naturel et sans trop de ressources pour justement arriver à des produits de ce type-là?
Alors effectivement, je travaille avec des prestataires qui déshydratent à basse température. Donc on est sur une déshydratation en dessous de 40 degrés qui permet de préserver les nutriments, les fibres. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Il y a forcément un peu de chauffe puisqu'on est sur une déshydratation.
Vous avez fait le bilan énergie environnementale?
Non, ça, j'ai pas fait le bilan. Mes prestataires travaillent aussi dans une optique anti-gaspillage. Donc, on est aussi dans cette optique d'avoir une réflexion vertueuse puisque malheureusement beaucoup d'agriculteurs de l'Île-de-France avec lesquels mes prestataires travaillent proposent leurs produits qui sont destinés à être jetés. Donc nous, on opère dans cette filière-là.
Et en termes de distribution, vous faites comment?
Alors, pour l'instant, comme je disais, sur le site internet naturel5.co, vous allez pouvoir trouver nos produits. Aujourd'hui, je suis en échange avec une chaîne de magasins bio pour pouvoir, je l'espère, faire un test prochainement. Et voilà, et je m'adresse aussi au B2B, aux entreprises. Donc, Naturel 5 est commercialisé depuis l'été dernier. Donc, c'est encore très récent, mais l'accueil est très positif.
Agathe, est-ce que tu as des remarques sur le pitch de Géraldine?
Oui, bien sûr, toujours. Déjà, bravo pour ton pitch, parce que je trouve que il est vraiment très maîtrisé. Tu es solaire, tu t'exprimes bien, on a envie de t'écouter. On est tous concernés par ce sujet de manger 5 fruits et légumes. Pour nous, pour nos enfants, c'est un sujet de société très fort. Et on comprend bien tout ton produit. Moi, je trouve que ce qui a manqué un peu dans le pitch, c'est le côté un peu adoubé par des scientifiques. Je pense que quand j'aurais aimé que tu nous parles un peu plus de comment tu as imaginé le produit, comment tu l'as construit, quels sont tes prestataires. Parce que je pense que dès qu'on touche un peu à la santé, à l'alimentation, c'est bien d'avoir ce côté un peu scientifique, d'être sûr d'avoir été développé avec les bonnes personnes. Mmh. Et Fred, d'ailleurs, t'as posé les questions sur ce sujet-là. Et dans cette continuité, je pense aussi les bienfaits. Tu as bien exprimé que tu te sentais mieux. Je pense que ça, c'est quelque chose de très fort, le bien-être en ce moment physique et mental dans notre société, c'est hyper important. Ouais. Et donc moi, j'aurais aimé que tu ailles un peu plus aussi là-dessus. Mais bon, franchement, bravo parce que c'était assez complet.
Ouais.
J'ai trouvé. Merci. Moi, ça me donne envie d'essayer. Et c'est avec super plaisir que tu viennes avec tes produits.
Niveau prix. Alors, comment?
Oui, alors pour les sachets 200 grammes, on est sur une vingtaine d'utilisations, donc on se situe autour de 20-25 euros suivant les produits, je ne les ai pas tous là. Et sur les sachets individuels, on va retrouver un seul super aliment, donc là on est sur des sachets de 50 grammes, on est entre 5 et 8 euros, sachant qu'il va y avoir l'équivalent de 15 cuillères à café, et là on peut laisser libre cours à son imagination, les utilisations. utiliser dans une purée, une soupe et les avoir tout le temps dans sa cuisine, un petit peu comme des épices. Et voilà, il y a le chou kale qui est une bombe nutritionnelle, c'est mon aliment chouchou. Et malheureusement, on ne le trouve pas souvent sur nos étals. Et là, c'est une façon de l'avoir chez soi. Il est cru, en fait. Donc vraiment, on peut l'associer. Moi, j'en donne à mes enfants quand je fais des smoothies. Donc c'est mon seul moyen de leur faire manger du chou.
Et pourquoi Natural 5 ?
5 fruits et légumes par jour.
Ça vient du 5 fruits et légumes.
Voilà, et on est 100% naturel.
Après, le gros sujet, c'est comment tu te fais connaître ? Parce qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui sur le marché, c'est comment tu arrives à sortir un peu du lot, au-delà de cette émission qui va exploser la
planète. C'est multiplié, qui va marquer un tournant dans la croissance de Natural 5.
Eh bien, écoutez, je suis très surprise parce que justement, en faisant mon tour, moi j'ai fait mon tour avec ma petite valise des magasins bio. Et ce qu'ils aiment, c'est que je me différencie de leur offre de super aliments qu'ils ont en sourçant en fait des super aliments locaux et en ayant cette offre de justement 5 fruits et légumes différents qu'on va trouver dans un sachet. Et même ces super aliments-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne les trouve pas dans les magasins. Et voilà, j'ai fait récemment le Salon Marjolaine et là aussi, ça a été un succès et vraiment, c'est perçu comme étant vraiment novateur. Je pense qu'on apporte quelque chose de différent.
Eh bien, c'est un succès qu'on vous souhaite en tout cas, Géraldine O'Neill, fondatrice et présidente de Natural 5. Merci beaucoup,
merci.
Géraldine.
Bravo.
En tout cas, Agathe Fred, je vous sens convaincue par le concept. J'ai l'impression que vous avez envie de goûter.
Oui, moi je pourrais essayer. Après, est-ce que je deviens un client régulier ou pas, je ne sais pas.
Au moins tester.
Voilà, tester, oui.
Ouais. Agathe, ouais, moi je pense qu'on mange pas assez de légumes, de fruits et de légumes dans la journée.
Avec nos vies
un peu speed, de pouvoir avoir cet aliment qui vient compléter une quiche mangée sur au-dessus d'un ordinateur ou un sandwich, c'est je pense que c'est pas mal.
Comment tu connais mon repas de ce midi?
Bon, merci beaucoup Agathe d'avoir participé à cette émission. Si vous aussi vous voulez venir pitcher, vous pouvez, hein, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site de BFM Business. Vous avez aussi l'adresse mail lespionniers@bfmbusiness.fr, le QR code qui s'affiche également sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission.
Pour les questions.
C'est Fred vous répond.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me poser vos questions sur le démarrage de votre activité, sur l'écosystème entrepreneurial, sur la manière avec laquelle on fait grandir une société. Et vous pouvez envoyer vos questions directement à l'adresse de l'émission qui s'appelle lespionniers@bfmbusiness.fr ou bien les poser directement sur le site.
Effectivement, et on commence tout de suite, Fred, avec la question de Lucie. Comment répartir efficacement les tâches entre associés ?
Alors, il faut tenir compte de la personnalité de chacun et des envies de chacun. Une équipe fondatrice, c'est un peu comme un puzzle. Ça doit être des pièces qui se complètent et surtout pas qui se marchent sur les pieds. Donc, en fait, c'est très important de savoir analyser les forces et les intérêts de chacune des personnes et trouver de quelle manière tout cela va pouvoir s'agencer et se compléter, puisque eh bien il va falloir tout couvrir. Quand on crée une société, il faut pouvoir couvrir tous les domaines de la construction du produit et de la tech, évidemment, quand c'est le cas, enfin en tout cas construire le produit ou le service, mais aussi savoir communiquer dessus, savoir financer le projet, savoir aller recruter, gérer toute l'équipe, enfin tout ça, c'est des choses qui doivent être très complémentaires. Éventuellement ensuite savoir partir à international, et forcément il va y avoir des gens qui auront plus d'affinité pour ça que d'autres. Donc il faut vraiment penser l'équipe comme un puzzle et comme une complémentarité entre les associés. Je me souviens que nous, c'est ce qu'on a fait comme travail avec Nicolas Brusson et puis Francis Nappé, qui sont mes cofondateurs sur Blablacar. On a bien réparti les tâches quand la société a commencé à vraiment grandir. Nicolas, lui, il était plus sur tout ce qui était opérationnel, croissance, y compris international, et puis financement de l'entreprise. Moi, j'étais plus sur ce qui était le produit, l'expérience client et puis aussi la communication, le bon message et le positionnement de l'entreprise pour bien faire comprendre ce qu'on était en train de faire et faire passer les bons messages. Et puis Francis Nappé, qui était notre baguette magique un petit peu technologique, il faut le dire, le CTO, donc qui savait bien rendre concret toutes les idées, les envies qu'on pouvait avoir. Et puis ensuite, on s'est tous occupés, pour le coup, d'aller recruter
donc toutes les fonctions ressources humaines et recrutement qu'on s'était répartis entre nous pour construire nos équipes et compléter nos ambitions.
Mmh. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question de Sofiane. Comment fait-on mûrir une idée en vrai projet entrepreneurial ?
Alors c'est vrai que quand on part avec une idée, on a un peu l'impression de partir dans un champ totalement vide et ouvert et qu'on ne sait pas où trouver les repères. Donc en fait, il faut s'organiser, créer, ça veut dire quand même penser en avance aussi. Ce n'est pas juste avoir une idée. Il faut paver le chemin vers l'existence de cette idée, de cette création. Donc ça veut dire qu'il faut déjà imaginer son idée, l'évaluer de la manière la plus objective possible, c'est-à-dire vérifier qu'elle peut être utile à la société. Donc ça veut dire discuter avec beaucoup de personnes, en parler et savoir ce qu'en pensent quand même les personnes. Alors si on nous dit oui, ce serait super, mais tu n'y arriveras jamais, alors ça, c'est pas grave.
C'est plutôt bon signe.
Oui,
c'est que
voilà. Mais des fois, on a l'impression que c'est impossible, alors que bon, en fait, quand on pave le chemin, on y arrive. Par contre, il faut que ça commence quand même par ah oui, pourquoi pas. Après, les gens peuvent avoir des peurs et se dire pourquoi pas, mais ça. Bon, ça, c'est juste des obstacles et on arrivera à y passer. Mais il faut quand même qu'il y ait le sentiment que c'est quelque chose qui va être utile. Ensuite, il faut s'organiser, comprendre si l'idée qu'on a, c'est plutôt un projet ou plutôt un produit. Ou plutôt un service, parce que c'est pas le même mode de fonctionnement. Quand on est sur un projet, eh bien on va fonctionner sur presque au coup par coup en fonction des clients qu'on va trouver. Quand on est sur un produit, il faut construire un produit pour tout le monde, il faut que ce soit le même pour tout le monde. Donc c'est pas la même approche. Il faut apprendre à convaincre et déjà s'auto-convaincre soi-même, savoir et vraiment comprendre ce qui nous motive, parce qu'ensuite ça deviendra contagieux, on arrivera à emmener plein de monde. Et puis ensuite il faut planifier et donc construire les étapes de progression du projet pour avancer. Donc voilà, c'est beaucoup plus pensé et structuré peut-être que ce qu'on peut s'imaginer. Transformer une idée en quelque chose de concret, c'est beaucoup d'organisation.
Et tous ces,
c'est très faisable.
Toutes ces réponses de Fred, vous pouvez les retrouver évidemment dans son livre « Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène ». C'est évidemment toujours dispo en librairie.
Qualifié de MBA de l'entrepreneur.
Effectivement, le MBA de l'entrepreneur. C'est la fin de cette émission des pionniers, mais on se retrouve la semaine prochaine, Fred, pour une nouvelle émission.
Avec grand plaisir.
Bon week-end.